RCF.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus offre à ses disciples une parole forte, engageante, exigeante. L'amour a été la ligne de conduite de cet homme de Galilée qu'ils ont suivi pour mettre leurs pas dans les siens. Et au soir de sa vie terrestre, les disciples perçoivent jusqu'où peut aller le don de ce rabbi à travers le geste du lavement des pieds. Aimer comme lui aime, n'est-ce pas folie, folle utopie ? L'évangile de ce dimanche nous invite à entendre ou réentendre ce commandement de l'amour. Pour le commenter, je reçois Gérard Billon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Luçon, vous êtes également bibliste, président de l'Alliance biblique française. Comme chaque semaine, nous allons écouter le texte, c'est dans Jean, chapitre 13, versets 31 à 35.
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Gérard Billon, resituons cette scène dans l'évangile de Jean.
Alors, nous sommes lors du dernier repas de Jésus dans l'évangile de Jean. Vous savez que le dernier repas de Jésus est constitué alors d'un geste symbolique, prophétique, qui est le lavement des pieds, vous en avez parlé tout à l'heure, et qui est suivi d'un très long discours qui rebondit en deux, trois vagues. Et c'est un très très long discours, puisque ça couvre les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17. Cinq chapitres. On a une espèce de ralenti temporel. Et dans ce discours, il y a toutes les significations de la mission de Jésus et de l'identité de la communauté chrétienne constituée ici par les disciples les plus proches.
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, il y a un détail là.
Alors, nous sommes dans le temps de Pâques. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, en fait, on l'a déjà entendu dans la Semaine Sainte, en particulier le Jeudi Saint. Et la première partie du chapitre 13, donc le début du repas, eh bien, il a été raconté avec Jésus, donc qui se dépouille de ses vêtements, qui retire ses vêtements et qui se fait serviteur de ceux qui sont ses disciples. Lui, le Kurios, le Seigneur, et le Didaskalos, le maître, l'enseignant, eh bien, se fait le domestique, le doulos, celui qui véritablement se met en quatre pour servir des gens plus grands que lui. Et il dit aux disciples, eh bien, ce que j'ai fait, faites-le vous aussi, soyez donc les serviteurs les uns des autres. Et vous retrouvez déjà ici une première étape, une bande-annonce, un brouillon du « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, lavez-vous les pieds les uns les autres comme je vous les ai lavés ».
Voilà. Alors, les pieds de Judas ont été lavés ?
Exactement, les pieds de Judas ont été lavés. Mais Judas n'est pas là pour les grands discours qui vont donner le sens de la vie et de la mort et de la mission de Jésus. Il est parti, il n'y a plus désormais que les intimes.
Gérard Billon, nous avons pris le temps de contextualiser le passage que nous allons regarder avec vous. Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. » Et il le glorifiera bientôt. Cinq fois le mot glorifié. Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est exactement. Alors, j'ai des amis qui me disent, évidemment, tu nous dis toujours que les mots dans les évangiles, il faut pas tout à fait les prendre que dans le sens habituel. C'est vrai. Le mot gloire en particulier. Il faut garder quelque chose de ce que la gloire aujourd'hui, la gloire humaine, c'est, on voit quelque chose qui scintille, quelque chose de doré, des rayons, quelque chose qui est de la lumière, de clinquant, oui, ça serait le côté négatif, ça c'est la gloire des hommes. Le côté brillant, mais non clinquant, qui est de l'ordre de la visibilité de Dieu. La gloire, c'est Dieu qui se rend visible. Et il se rend visible d'une manière qui n'est pas de façon clinquante, puisque justement, il se rend visible en son Fils Jésus. Donc, sur la croix, chez Jean, Jean, il est absolument pas doloriste. Vous savez qu'il y a encore des gens, ça a eu lieu également. À un moment donné, l'histoire de l'Église, on a beaucoup insisté sur les souffrances de Jésus, sur son sang, sur la mort, sur les épines, etc. Il n'y a rien de tout ça dans l'évangile de Jean. Rien du tout. La croix est le lieu de la révélation de l'amour du Père, donc de l'amour du Père pour les êtres humains et de l'amour de Jésus pour son Père. C'est ça la gloire, rendre visible l'amour de Jésus pour son Père et l'amour du Père pour Jésus. Je peux faire une petite allusion à l'Ancien Testament là ? Je peux. Donc vous avez à un moment donné dans l'Ancien Testament, c'est lors de l'Exode. Vous avez la gloire de Dieu qui apparaît de temps en temps. Autrement dit, elle se rend visible et elle rend visible la prévenance et la bienveillance de Dieu pour son peuple. Vous connaissez le célèbre passage, c'est dans le chapitre 32, 33, dans lequel, ou 31, pardonnez-moi, dans lequel vous avez Moïse qui demande à Dieu, écoute, je voudrais bien te voir. Vous savez que selon la grande tradition,
on peut pas voir Dieu.
Peut voir Dieu sans mourir, bien évidemment. Alors, eh bien, Dieu dit, mais tu veux me voir? Eh ben, d'accord. Mais sauf que, en fait, quand on lit le texte, Moïse ne voit pas Dieu, parce que Dieu met sa main sur le rocher où se tient, mais il voit passer la gloire de Dieu. Autrement dit, c'est à la fois une présence, et c'est en même temps une présence qui échappe à la mainmise. C'est tout à fait le contraire du veau d'or. La croix, de ce point de vue-là, elle est pour nous la présence même, le signe de la croix que nous faisons quand on arrive dans les églises. La croix qui est présente dans toutes les églises. Et je ne parle pas ici du crucifié, je parle même du signe de la croix. Le signe de la croix, c'est à la fois quelque chose de très simple. Alors, on a couvert ça d'or, peut-être même d'ailleurs parce que on voulait exalter cette présence-là. On voulait exalter la gloire qui apparaît dans la croix. La croix de Jésus, elle est à la fois la révélation de l'amour du Père, elle est à la fois quelque chose de visible, et en même temps, ça cache Dieu, puisque c'est quand même quelque chose dont on a un petit peu perdu le sens aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de non noble, d'ignoble, comme telle la croix. Eh bien, tout le sens, il est là, quelque chose de présent, et en même temps, quelque chose qui échappe à la mainmise.
RCF. Enfin une bonne nouvelle.
Gérard Billon, vous avez bien expliqué ce qu'est la gloire, mais alors quel est le lien entre la gloire du Fils et la gloire du Père? Parce qu'on a l'impression que dans la première partie de ce texte, oui, c'est ce dont il s'agit.
Le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Le Fils de l'homme est glorifié. C'est le sens de la croix. Fils de l'homme, Jésus, donc l'homme des derniers temps, l'envoyé, on est quelque part dans la fin du monde, un horizon de fin du monde, mais pas un horizon de destruction de fin du monde, simplement c'est la fin, tout simplement. Et nous sommes à la fin des temps. Vous savez, cette dimension que l'on dit eschatologique de fin des temps, il faudrait que nous la retrouvions aujourd'hui.
C'est pas pour demain, c'est aujourd'hui.
Exactement, c'est aujourd'hui, c'est le maintenant d'ailleurs, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Il y a là quelque chose, on est à un tournant de l'histoire humaine. Sur la croix, Jésus crucifié rend visible son amour pour les êtres humains, en particulier à commencer par ses disciples, mais de ses disciples ça va à tous les êtres humains, et son amour pour son Père. Il est glorifié. Et Dieu est glorifié en lui. C'est-à-dire que sur la croix, le visage de Jésus qui se donne les bras grands ouverts pour accueillir tout le monde, c'est quelque chose qui se donne, ça rend visible l'amitié de Dieu ou l'amour de Dieu pour les êtres vivants. Voilà.
D'une manière totalement paradoxale.
D'une manière totalement paradoxale. Vous savez, on n'a plus rien. Jean de la Croix le disait, il le disait beaucoup mieux que moi et je n'ai pas tout à fait la citation exacte. Il n'y a plus à chercher de révélation de Dieu, car Dieu a tout dit en son Fils Jésus. Et la dernière image humaine que nous ayons de Jésus, c'est le crucifié. Maintenant, tout est accompli. C'est l'amour jusqu'à l'extrême, l'amour jusqu'au bout.
Gérard Billon, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche en Jean chapitre 13, versets 31 à 35. Jean poursuit « petits-enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Petits-enfants, cette expression, je crois qu'elle est unique dans les évangiles.
Alors tout à fait, elle sera reprise dans la première lettre, dans la première lettre de Jean. Vous avez à la fois un côté paternel, alors on est plutôt habitué à considérer que Jésus, il est notre frère. Et je me demande si en l'occurrence, le petits-enfants, c'est moins Jésus dans son atmosphère, dans sa dimension paternelle qui nous causera nous, qu'il nous met du côté des petits-enfants de Dieu, de son Père. Nous sommes les petits-enfants de son Père, de même que lui, il est le fils du Père.
Et du coup, nous sommes ses frères.
Exactement, et du coup, nous sommes ses frères.
C'est une manière de nous introduire dans l'intimité qu'il a avec son Père.
Et c'est une manière de nous introduire dans notre identité profonde. Pour être frère, il faut se reconnaître enfant du même Père. C'est dans la liturgie le Notre Père, hein, la prière de Notre Père. Si nous disons Notre Père, le Père qui est le Père de Jésus, c'est que nous sommes tous frères et sœurs.
C'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Donc là, Jésus dit la vérité à ses amis. Il les prévient du sort qu'on lui réserve.
Hein. Ouais.
Et puis, il y a ce verset, effectivement, qui a été supprimé pour ce dimanche, qui fait dire à Jésus, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux autorités juives, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, maintenant, je le dis.
Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Effectivement, là où Jésus va, c'est-à-dire il va près du Père en passant par la croix, nul ne peut le suivre et personne ne va le suivre. Hein. Au pied de la croix, vous allez avoir le disciple que Jésus aimait, Marie-Madeleine, et puis la mère de Jésus. Mais ils vont continuer justement, eux, à vivre et ils vont recevoir le message du ressuscité.
Mais seul lui fait le chemin.
Seul lui fait, j'allais dire, il ouvre le chemin comme le berger à la tête du troupeau. Vous savez, dimanche dernier, dans le quatrième dimanche du temps pascal, il a été question des brebis et du bon berger. Donc aujourd'hui, là où je vais, vous ne pouvez pas aller, ça, il l'a dit à ceux et celles qui sont ses frères et sœurs juifs. Or, ses disciples, ils sont également juifs. Et vous allez retrouver, là où je vais, vous ne pouvez pas y aller, vous l'avez également à la fin du texte, avec Pierre. Pierre qui dit, ben moi je veux y aller. Non, non, toi tu peux pas venir. Il y a une coupure. Il y a une coupure entre la mission de Jésus et celle qui va être la mission des disciples. La mission des disciples, elle va être désormais d'observer le commandement nouveau.
Et oui, parce qu'on y vient. Jésus dit ensuite à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Exactement. Alors, c'est répété. Je veux dire, l'amour fraternel n'est pas en soi une nouveauté. Je crois bien quand même. Alors, on a sans doute des exemples qui montrent le contraire. J'espère bien quand même que l'amour fraternel, ce qu'on appelle l'agapé, l'amour don de soi, il n'y a pas que les chrétiens ou que les juifs qui en sont les dépositaires et qui le vivent. Qu'il y a beaucoup de personnes athées, agnostiques, non-croyants ou d'autres religions qui vivent cet amour fraternel.
Mais alors, c'est quoi la différence avec l'amour?
La nouveauté, elle est dans le commandement nouveau, comme je vous ai aimé. Autrement dit, vous aviez dans l'Ancien Testament, vous avez en Lévitique chapitre 18, une chose d'ailleurs que Jésus reprend, mais pas dans l'évangile de Jean, mais dans les évangiles de Marc, Matthieu, c'est quel est le plus grand commandement? À votre avis,
Béatrice? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence.
Et ton prochain
comme toi-même.
Voilà, le double commandement, le commandement vers le Père et le commandement de l'amour fraternel. C'est donc aimer son prochain comme soi-même. Or, la nouveauté, elle est plus d'aimer comme soi-même. Peut-être que parfois, on ne s'aime pas suffisamment d'ailleurs. Hein, mais c'est d'aimer comme Jésus aime.
Donc, Jésus qui lave les pieds, Jésus qui donne sa vie.
Exactement.
Qui guérit.
Exactement. Ça, c'est la nouveauté chrétienne. Aimer comme Jésus. Peut-être que d'autres ont également aimé comme Jésus, mais nous, notre modèle, c'est justement Jésus, et d'aimer comme il a aimé, et de se faire les serviteurs les uns des autres. De ce point de vue-là, l'évangile de Jean, ou bien l'évangile de Paul, ce qu'il dit dans ses grandes lettres, c'est exactement la même chose. Hein. Soyez soumis les uns aux autres, considérez les autres supérieurs à vous-même. Donc, ça c'est dans l'hymne, fameux l'hymne aux Philippiens, ce merveilleux poème où il est question de la mission de Jésus. Ayez entre vous des sentiments qui furent en Christ Jésus, lui qui ne s'est pas prévalu d'être à l'image de Dieu, mais qui s'est fait homme et même esclave et mort sur la croix. Et donc, la croix est véritablement le signe qui identifie les chrétiens.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Écoutons avec vous, Gérard Billon, donc la finale de l'évangile de ce dimanche 19 mai. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc être disciple, ça se définit par l'amour.
Être disciple se définit par l'amour mutuel dans l'Église. Alors, certains parfois disent, mais écoutez, ça veut dire que l'Église, comme ça, c'est un amour entre soi et les autres, il n'y a pas d'importance, au contraire. Je veux dire, si l'amour est un don de soi, et il est difficile, y compris dans l'Église, de s'aimer les uns les autres,
d'aimer surtout
comme
dans l'Église.
Jésus a aimé, et peut-être bien qu'il sait, surtout dans l'Église, il y a des choses absolument dramatiques, il y a des choses ignobles qui se déroulent dans l'Église. Eh bien, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est en même temps un amour pour ceux et celles qui sont les victimes, c'est un amour également et pour ceux et celles qui sont les bourreaux. Dans l'Évangile de Jean, vous avez deux choses dans l'Évangile de Jean. Dans l'évangile de Luc, pardonnez-moi, qui n'est pas dans l'évangile de Jean ou qui n'est pas dit de la même manière, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ils ne savent pas ce qu'ils font, Père, pardonne-leur. Et puis, eh ben, à la victime, là, au bandit qui est à côté de lui, c'est « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Cette espèce de solidarité de Jésus avec tous ceux et celles qui sont les victimes et qui pâtissent de la haine des autres ou du mal des autres. Et ça existe y compris dans l'Église. Or donc, cet amour que nous devons avoir les uns pour les autres, qui est une espèce de dépassement de nous-mêmes, qui est une demande de pardon, demander pardon à ceux et celles à qui on a fait du mal, se faire serviteur de ceux et celles qu'on n'aimerait pas servir, qu'on n'aimerait pas avoir comme amis. Or, en fait, nous sommes invités à considérer que dans l'Église, il y a quelque chose de prophétique que nous devrions vivre.
Mais que les gens devraient voir normalement, de l'extérieur.
Et de l'extérieur, ça devrait se voir. Le fameux « voyez comme ils s'aiment », donc qui est quelque chose qui ferait partie de l'identité de l'Église, de « or, en fait, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça se manifeste, sauf que peut-être bien que dans l'Église on se reconnaît et on s'aime les uns les autres parce qu'on se reconnaît soi-même pécheur et qu'on essaye malgré tout avec notre humanité, avec nos limites, avec nos faiblesses, de se faire les serviteurs les uns des autres, de se laver les pieds les uns les autres. Mais en faisant ça, on le fait pas uniquement pour ceux et celles qui sont les disciples, on le fait également pour ceux et celles qui sont à l'extérieur. À un moment donné, dans le grand discours qui va se continuer, nous ne sommes jamais qu'au début de ce grand discours, il va se continuer avec les chapitres 14, 15, 16 et 17, je crois qu'il est question, il parle de plus grand bonheur que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, uniquement pour ceux qu'on aime. Mais ceux qu'on aime, c'est qui? C'est à la fois dans l'Église, ceux et celles avec lesquels on n'est pas d'accord, mais également ceux qui ne sont pas encore de l'Église. L'ensemble des êtres humains, Jésus n'est pas mort uniquement pour les chrétiens. Il est mort pour les juifs, il est mort pour les chrétiens, il est mort pour les musulmans,
pour
il est mort
païens.
Pour les athées, il est mort pour ceux et celles qui l'ont crucifié, il est mort pour les romains, il est mort pour Pilate, il est mort pour les grecs, il est mort pour les juifs, pour les hommes, pour les femmes, pour les esclaves et pour les hommes libres.
Gérard Billon, nous avons regardé cet évangile du dimanche. En quoi ce texte, il est bonne nouvelle pour nous aujourd'hui?
C'est toujours une bonne nouvelle de nous dire que nous sommes serviteurs. C'est une bonne nouvelle d'entendre dire que nous sommes aimés malgré, j'allais dire, nos infirmités, malgré peut-être ce qui nous tourmente, malgré nos divisions, nos blessures intérieures. Nous sommes aimés malgré le mal que nous faisons ou que nous avons fait. Mais que le mal que nous avons fait n'est pas la fin de tout et que les blessures qui sont en nous, eh bien, peuvent être consolées par le Père. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Mais
nous
alors, sommes... de l'autre côté, aimer, c'est quand même difficile. C'est un impératif quand il dit...
Oui, tout à fait.
Aimez-vous les uns les autres.
C'est ça le commandement.
Mais est-ce qu'on peut commander l'amour? Parce qu'on va vous dire, mais on ne peut pas commander l'amour.
Alors, quand on dit commandement, il faut faire attention. Mais qu'est-ce que c'est qu'un commandement? C'est quand même pas, je veux dire, une définition de code pénal, en l'occurrence. Hein. Il y a là une injonction, il y a là l'impératif qui est là.
Mais c'est affectif, ça vient du cœur ou alors c'est un devoir?
Les deux, mon capitaine. Si ça vient du cœur, et au sens biblique, le cœur, c'est le siège de la décision et des volontés, ça se manifeste par des actes. Ça se manifeste par le regard, ça se manifeste par les paroles, ça se manifeste par les mains, ça se manifeste par les pieds, ça se manifeste par le corps. Voilà, donc cet amour, mais qui, j'allais dire, demande à se dessaisir de soi-même. La gloire dont on parlait au point de départ, la glorification de Dieu, elle est dans le dessaisissement même de tout pouvoir. à la fois le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres parce qu'on peut être séducteur ou qu'on cherche à séduire, le pouvoir que l'on peut avoir sur les autres parce qu'on a un pouvoir de type politique ou de type économique.
Ou religieux,
bien entendu. Se dessaisir de tout pouvoir pour justement voir que le signe même de l'amour, c'est un non-pouvoir, c'est cette espèce, la croix plantée au cœur du monde.
On peut dire justement que quand on sert dans cet esprit-là, on glorifie Dieu.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'on le rend présent. Après ce que vous avez dit, dans une absence, mais on lui donne un visage.
Et la bonne nouvelle dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de joie plus grande. Alors, c'est une phrase qui est dite dans les Actes des Apôtres, qui n'est pas relite dans les Évangiles, que de s'aimer. Il n'y a pas de joie plus grande que de donner. Voilà. Que de donner. Vous savez bien la célèbre phrase, hein, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ben je pense que Jésus n'a pas perdu sa vie, il l'a donnée. Et nous sommes invités à donner à sa suite. Et en donnant, il y a une joie pour nous. La joie d'évangile, elle est aussi... Il y a quelque chose de... vous allez me dire, on joue peut-être avec les mots, mais en donnant sa vie, on reçoit une joie, une paix plus profonde, où en luttant contre ce qui nous tire vers le bas, nous sommes vers le bas, nous sommes attirés vers le haut. Et cette joie, il faut l'éprouver.
C'est l'expérience.
C'est l'expérience. Vous avez sans doute dans la vie des moments d'épreuve, des moments qui sont douloureux, mais vous sentez après, c'est comme un immense effort. Vous avez, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus simple. Vous êtes en montagne, vous avez fait des kilomètres, vous avez sué, ça a été dur, et à un moment donné se découvre devant vous un paysage que vous n'avez jamais vu. Vous avez assemblé une espèce de plénitude qui existe. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans la vie chrétienne. Voilà.
Donc c'est pas un chemin tranquille.
Ce n'est pas un chemin tranquille, c'est un chemin qui demande de l'effort, mais c'est un effort dont on sait qu'au bout, il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas où Dieu me mène, mais j'y vais parce que je sais que puisqu'il m'aime, il va me procurer une joie, une paix profonde. Ça, je l'espère pour tous, et c'est ça pour moi la bonne nouvelle.
Donc, dans son héritage spirituel, là qu'il laisse à ses amis, Jésus, il nous promet une joie dans l'offrande de nous-mêmes.
Oui, exactement. La joie, elle n'est pas simplement, j'allais dire, au bout, ça pourrait être ça. Elle devrait être déjà dans l'espérance du bout qui m'attend. En marchant, en cheminant et en servant les uns des autres, il y a déjà, en me dépouillant de moi-même, en me dépouillant de tout ce qui m'emprisonne et de tout ce qui est signe de pouvoir sur les autres, j'éprouve déjà quelque chose qui est de l'ordre de la paix. Ce n'est pas les petits bonheurs, les petits bonheurs de la vie, qui sont importants, la dernière gorgée de bière, etc. Non, c'est la joie profonde, celle qui dit oh, « je suis aimé, je suis aimé
oui, ». Ça,
au
c'est
fur et à mesure qu'on marche. Ça, c'est l'expérience.
Mais comment se sentir aimé quand on n'est pas forcément de l'Église, on entend ce texte
je ne sais pas. Ça mériterait qu'il y ait ici un échange avec quelqu'un. Il faudrait peut-être écouter ici, là, j'ai pas relu, un Henri Duluca, vous savez, ce grand écrivain italien qui dit que dans la Bible, il y a des choses absolument extraordinaires, mais que lui, il n'est pas chrétien et qu'il ne peut pas tout à fait en faire l'expérience. En fait, il en fait déjà un peu l'expérience, parce que c'est un type qui se donne énormément dans des combats sociaux, dans des combats humanitaires. Aimer déjà les êtres humains pour ce qu'ils sont, non pas les exploiter, mais les aimer comme des personnes indépendantes, libres, debout, ou essayer qu'ils soient libres, debout. Il y a cet engagement-là, et qui est un engagement qui se situe dans la ligne du Christ qui donne sa vie pour le monde. Cet engagement-là, c'est l'expérience. Je pense que chacun de nous, quand même, même les gens qui sont usés par la vie ou usés par les épreuves, le vivent simplement. Nos auditeurs, certains sans doute, le vivent plus que d'autres. Ils le savent par expérience que être aimé, ça pousse à aimer. Parce qu'en fait, quand même, si vous êtes aimé, vous avez quand même que, j'en sais rien, enfin, je sais pas comment vous êtes, Béatrice, mais le sentiment d'être aimé me pousse à me dire, mais quand même, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je n'ai sans doute pas mérité ça, il faut quand même que j'y aille. Vous savez, il y a un poète que j'aime beaucoup, qui est un poète jésuite, Jean-Joseph Surin, que je vive ou je meurs, il me suffit que l'amour me demeure. Il me suffit que l'amour me demeure, et à la limite même, si c'est dans les larmes, peu importe, je sais que l'amour est là, et ça me rend heureux.
On va terminer avec le poète. Ouais. Merci à vous, Gérard Billon. On retrouvera ce texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, versets 31 à 35. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.